Bonjour à tous. Vous écoutez France Culture, il est tout juste midi. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table. Mais tout de suite, quelques titres du journal de 12h30 présentés par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Hillary Clinton l'emporte dans la majorité des 6 États en jeu hier, dont la Californie. Elle va donc être la représentante démocrate à la présidentielle face à Donald Trump et devient par là même la première femme à briguer le poste au nom d'un grand parti. Bernie Sanders annonce toutefois qu'il va continuer le combat électoral jusqu'à la convention démocrate. Analyse tout à l'heure avec l'historien François Durpère. En France, pour la 8e journée consécutive, le trafic SNCF est perturbé. La CGT consulte toujours la base sur ce projet d'accord signé dans la nuit de lundi à mardi. Ce matin, il faut signaler aussi que les 3 principaux sites de traitement des déchets de la région parisienne sont bloqués à nouveau, ainsi que l'incinérateur de Fos-sur-Mer. On fera le point sur la situation sociale avec Cécile Aspe. Les offensives contre les djihadistes du groupe État islamique continuent en Syrie et en Irak. Ce matin, l'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme que l'EI ne peut se maintenir sur plusieurs fronts. On fera le point avec Nabila Hamel. Et puis, on parlera de cette enquête sur le soutien de l'opinion publique européenne à l'Union européenne, un soutien qui est en baisse sensible cette année dans les plus grands États de l'Union. Selon l'enquête donc de Pew Research Center, le soutien à l'Union européenne en France a chuté de 17 points de pourcentage donc en un an et il s'établit seulement à 38%. Enfin, on dira un mot du cardinal Barbarin qui est entendu ce matin par la police, l'archevêque de Lyon toujours mis en cause pour des faits de non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs. Voilà pour les titres. C'est à vous, Caroline, la Grande Table.
Et nous commençons en musique, en compagnie d'un compositeur qui est avec Thomas Hades ou encore Oscar Strasnoy, l'un des plus importants de sa génération. Il est compositeur, mais il est aussi chef d'orchestre allemand, installé à New York, si tant est que le mot « installé » pour un chef aussi coté sur la scène internationale est encore un sens. Bonjour Matthias Pincher.
Bonjour Caroline.
Bienvenue.
Bonjour à tous.
À
merci.
La Grande Table.
Merci.
Matthias Pincher, vous donnerez après-demain, dans le cadre du festival de l'IRCAM Manifeste, un concert à la Philharmonie de Paris. Un concert dont on va parler à la fin de cet entretien. Un concert fait de compositions qui ne sont pas les vôtres, mais qui sont des compositeurs que nous connaissons mal, que nous connaissons peu en France, d'où l'importance de jouer cette musique. Une musique à laquelle vous tenez depuis très longtemps en tant que violoniste. C'est la première formation que vous avez reçue. Puis vous êtes devenu chef, puis vous êtes devenu compositeur. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel sens cela s'est fait. Est-ce que la formation de violoniste vous a ouvert les portes de la composition ou de la direction musicale ?
J'ai commencé à apprendre le piano à l'âge de 5 ans.
Ça a d'abord été le piano.
C'était plutôt, franchement, le choix de mes parents. Ils ont absolument voulu insister que j'apprends le piano. Mais à l'âge de 10 ans, j'ai consciemment voulu apprendre le violon. Parce qu'il y avait une copine à l'école qui jouait au violon et j'ai voulu jouer des duos avec elle. Et ça, c'était la raison pourquoi j'ai appris le violon. Et par ce phénomène de comprendre comment ça fonctionne, un instrument à cordes avec pratiquement 2 instruments, c'est le corpus et l'archet, ça m'a fasciné et j'ai voulu partager la musique dans un orchestre de jeunes dans ma petite ville en Allemagne où j'étais né. Et j'étais au premier pupitre des deuxièmes violons. Et j'étais fasciné instantanément par cette physicalité du son. Et ça m'a fait réfléchir sur le désir d'apprendre la direction. Et j'ai pu diriger mon propre orchestre à l'âge de 13-14 ans.
Ah, quand même.
Quand même, hein. Et par cette expérience d'avoir le rapport, le contact direct avec cet instrument de l'orchestre, J'ai voulu m'inscrire moi-même dans cette physicalité de l'orchestre et j'ai lu, j'ai étudié des partitions que j'ai pu trouver dans la bibliothèque, dans cette petite ville. Hein. On parle des partitions de Stravinsky, Mahler, Schoenberg, Debussy, tout ça. Et après ça, j'ai commencé à l'âge de 15-16 ans d'écrire pour l'orchestre. C'était pas comme que j'ai composé une petite sonatine pour mon propre instrument, pour le violon. Je me suis plongé directement dans cet esprit de l'orchestre. Et en ce moment, les deux capacités de apprendre la direction et la composition se sont développées mutuellement et en même temps.
Et oui, vous avez, à tel point que vous avez gardé en tête des partitions que vous avez apprises il y a maintenant à peu près 30 ans, Matthias Pintscher, comme Mahler et son chant de la terre, puisque j'ai lu, en préparant cette émission, une anecdote toute récente, c'est que vous avez dû diriger le chant de la terre de Mahler sans notes, sans partition, parce que on avait perdu pour votre valise dans un aéroport entre deux correspondances. Ça, c'était une première fois, diriger sans partition.
J'ai dirigé par cœur avant, mais c'est une expérience complètement différente parce que on n'est pas enchaîné à la partition. Il faut vraiment communiquer directement avec les yeux de tout le monde.
Vous retrouviez les instruments.
C'est un rapport complètement différent. Il n'y a pas de safety net. Hein. On est pratiquement nu et on peut répondre encore plus dans une façon plus intime avec le rapport du son. Ça veut dire la façon comment on réagit au son, c'est différent. Parce que, au contraire, vous savez bien que le grand Pierre Boulez, il a toujours refusé de diriger par cœur parce qu'il a toujours voulu rester en contact avec la partition. Mais quand on dirige en comme le chant de la terre de Mahler ou une symphonie de Beethoven, ça crée une ambiance complètement différente parce qu'on peut réagir au moment. On est peut-être un peu plus flexible d'être encore plus sensibilisé.
Ça veut dire, Matthias Pintscher, que vous remerciez finalement cette compagnie aérienne d'avoir perdu votre valise et que peut-être vous désirez maintenant
après
perdre vos valises
semaine,
hein,
après
avec
six
les
jours d'attente. Hein, ouais. C'est l'enfer pour un chef d'orchestre d'être sans les partitions. Avec le répertoire contemporain, c'est pratiquement pas faisable. C'est impossible de diriger en œuvre d'une complexité énorme sans la partition. Mais bien sûr, avec une partition comme le Mahler, c'est tout à fait faisable parce que j'ai dirigé cette œuvre plusieurs fois et apparemment je connaissais la partition très bien et par cœur, mais ça faisait peur au premier moment, mais c'est tout à fait faisable, on peut faire et c'est bien parce qu'on est pratiquement forcé à réagir dans une façon qui est complètement différente.
Vous parliez du grand Pierre Boulez. Pierre Boulez vous a confié les rênes de son ensemble, l'Intercontemporain, qui fête ses 40 ans, hein, cette année, l'année prochaine. Il a été fondé en 76-77. Bon. Pierre Boulez, qui vous a donc confié les rênes il y a 3 ans maintenant, de cet ensemble intercontemporain, 20 musiciens hétéroclites.
31
musiciens.
31 solistes, hein, en étant ensemble des solistes, hein, exactement.
Quel bilan faites-vous après 3 ans pour vous à la tête de cet ensemble, 40 ans d'existence de l'intercontemporain? Quand il vous a donné les rênes de cet orchestre, Pierre Boulez était encore vivant, bien sûr, et quand il vous a donné les rênes de cet orchestre, est-ce que pour vous, c'était vous inscrire dans une longue lignée, dans un héritage de Pierre Boulez? Est-ce qu'il représentait pour vous, jeune chef d'orchestre, quelque chose de particulier, l'intercontemporain et Pierre Boulez?
En ce que vous parlez, Caroline, dans héritage, tout à fait, c'est un héritage énorme. Et c'est un esprit qu'on vit toujours et qu'on va certainement continuer à vivre chaque seul jour. Hein. Pierre Boulez a conçu cet ensemble, mais c'est fascinant parce qu'il n'a pas conçu cet instrument pour lui-même. Il a conçu l'ensemble art contemporain, l'IRCAM, hein, la Philharmonie de Paris, de toutes ces initiatives, hein, et aussi l'Académie à Lucerne, par exemple, pour le futur. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve, parce qu'il a vraiment investi dans le futur. Hein. Au moment où j'ai repris l'ensemble art contemporain, Pierre me disait, Mathias, soyez différente. Faites des choses différentes. Osez les changements. Et en ce moment, en particulier, où Pierre nous a quittés, hein, ça pose apparemment beaucoup de questions. Quoi faire maintenant? Mais on a déjà commencé à vraiment changer la programmation de l'ensemble. On a certainement voulu et décidé d'en agir, hein, le répertoire, on a investi dans la recherche de trouver des jeunes chefs, des nouveaux chefs, des jeunes compositeurs, hein, et aussi certainement présenter des personnalités musicaux à Paris qui n'étaient pas encore visibles. Et il faut investir, il faut oser. Parfois, il y a certainement aussi des difficultés. Mais Pierre, il est toujours, j'ai toujours cette image de Pierre en marchant et il est toujours allé très vite. Hein. Il faut continuer à marcher. On ne peut pas s'arrêter. Hein. Il faut investir dans le futur. Bien sûr, avec un élément rétrospectif. Hein. Mais ce que je fais avec l'ensemble intercontinental, c'est peut-être. C'est une condition de se trouver dans trois états. C'est le regard vers la tradition, c'est l'héritage, le patrimoine musical, tout ça. C'est now, c'est l'aujourd'hui, et c'est le regard vers le futur. Et c'est comme en marchant par le musée de Guggenheim à New York, hein, cette grande spirale. Hein, on est bien dans le moment, dans le maintenant, mais on peut toujours regarder vers le niveau plus bas, ce qu'on a déjà vu, et on peut projeter vers le futur, hein, quand on regarde vers l'eau, on peut regarder qu'est-ce qui se passe, hein, dans le futur, hein. Et c'est cet phénomène de faire des choses dans trois différents temps, en même temps.
C'est justement avec l'ensemble intercontemporain que vous allez diriger le 10 juin prochain ce concert temps réel avec quatre pièces contemporaines, Mathias Pincher, quatre pièces contemporaines de compositeurs qu'on ne connaît pas, hein, comme je le disais au début de cette émission, Aureliano Cattaneo, Brian Fernahau, Beat Führer et Jan Maresch. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ces quatre compositeurs?
C'est un programme qui me fascine énormément. Et on a conçu ce programme ensemble avec le directeur de l'IRCAM, Franck Madlené. Et ainsi qu'il s'agit d'un concert au cadre du Festival Manifeste, qui était conçu par Laurent Bell il y a 20 ans. On utilise les moyens de l'IRCAM, hein, l'électronique. Hein. On a passé une commande à Cattaneo pour une pièce pour piano, seule, avec l'électronique. Hein. Deuxièmement, il y a une création française d'une pièce de Jan Maresch, Tutti, pour grand ensemble, et en dispositif électronique aussi. Une partition qui, c'est une musique très 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 forte, très 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 présente, très directe, hein, très masculin, beaucoup d'images sonores qui explosent, hein. Et au milieu on a un grand anglais, Brian Fernahau, et le Suisse Beat Führer avec des musiques, des sonorités qui sont complètement différentes de Cattaneo et Maresch. Fernahau est bien connu pour une complexité extrême. Hein. En regardant ses partitions, c'est pratiquement comme des tableaux. C'est super beau, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement difficile, hein, à réaliser. Mais
quand vous dites réaliser, difficile.
Réaliser, à répéter, à expliquer, à comprendre, à déchiffrer pratiquement. J'ai dû vraiment étudier cette partition pour pratiquement une semaine, et ça prenait son temps pour comprendre les rythmes. Mais après ça, après qu'on a digesté les structures et les difficultés, on peut vraiment trouver une couche d'une sensualité énorme. Et c'est certainement toujours l'oreille qui informe le paysage sonore de cette partition extrêmement fascinante.
Alors, tendons l'oreille. Fernhau. Conjunction, un extrait de cette composition de Brian Fernhau, composée en 2014. Mathias Pincher, vous disiez que c'était une œuvre difficile à décoder, à déchiffrer, à jouer, mais qu'une fois qu'on entrait dedans, le paysage sonore, comme des images sonores, comme des tableaux se déployaient. C'est vrai que quand on entend comme ça, on va pas se mentir, c'est difficile même à écouter, je pense de votre côté, mais comme d'une autre. C'est souvent la difficulté d'ailleurs de ce qu'on appelle la musique contemporaine qui peut faire peur, qui peut éloigner les oreilles qui ne sont pas formées, qui ne sont pas éduquées. Est-ce que vous avez ce souci-là, vous ? Alors là, je passe peut-être de l'autre côté, de votre deuxième casquette du compositeur que vous êtes, de ce souci d'aller toucher les personnes qui vous écoutent, les auditeurs de votre musique. Est-ce que c'est un souci constant ? Est-ce que vous avez envie de toucher immédiatement ou bien de prendre le temps que les gens s'installent pour écouter avec nécessité d'être éduqué, d'être formé à ce type de musique ?
Franchement, je n'ai pas de souci du tout. Il y a de la musique excellente et il y a de la musique mauvaise. Et c'est peut-être quelque chose qui est complètement indépendant du répertoire. Une pièce comme cette pièce de Fernhau est super belle. C'est super difficile à réaliser, mais après, le résultat, c'est moi, personnellement, je trouve que c'est beau.
C'est quoi le beau pour vous ?
Je vais essayer de vous expliquer. C'est peut-être l'aspect que cette musique parle. Comme la musique de Schumann, comme la musique de Monteverdi, comme la musique de Schubert, Beethoven. C'est une musique où chaque seul élément a le désir ardent de se communiquer, de parler. C'est aussi peut-être le phénomène que cette musique est pleine de couleurs et des timbres. Et parfois, il me semble même que les partitions de Fernhau donnent l'impression d'une improvisation, mais en même temps, chaque seul objet musical est sans personne définie et décrit par le compositeur. Mais on a, même en jouant cette partition, on a une sensation d'une grande liberté. Et comme dans les musiques de Johann Sebastian Bach, c'est pareil, c'est la construction est pratiquement même parfois rigide, hein, mais en même temps il y a une âme qui flotte, hein, à l'intérieur de cette musique. Et c'est pareil avec une grande œuvre de Bach ou Fernhau, c'est pareil pour moi. Et qu'est-ce qu'on dit à notre public, hein? Il faut seulement écouter. Et ayez pas peur, parce que utilisez vos sensations, hein, avec chaque grand œuvre d'art, soit en tableau ou en livre ou en poème, hein, on peut trouver quelque chose sur soi-même dans cette œuvre d'art. C'est pas l'auteur qui parle, c'est nous-mêmes qui parlons en ce moment en rencontrant un grand œuvre d'art.
On aimerait, Matthias Pincher, être les étudiants chanceux qui vous ont comme professeur de composition à la Juilliard School. La Juilliard School, qui est une école par définition ouverte aux arts au sens large, à la danse, au théâtre. C'est l'une des écoles les plus prestigieuses au monde. C'est ce type d'approche que vous défendez dans vos classes, devant vos étudiants?
Tout premièrement, il faut dire que c'est vraiment difficile à enseigner la composition. On peut faire, on peut partager une analyse, hein, mais la composition, c'est un processus qui est trop complexe. On peut pas enseigner la composition un jeudi après-midi dans la salle 506. Hein. C'est nourri par les expériences. Il faut écrire, il faut faire des fautes, il faut se brûler. Mais après ça, on va apprendre et on va. C'est l'expérience et ça s'arrête jamais. La même chose pour un chef d'orchestre. On n'arrive jamais avec l'interprétation d'une symphonie de Beethoven. Ça continue lifelong. Et avec la composition, c'est sûr qu'on on définit, on sculpte peut-être les détails au cours de la vie, mais comment commencer? On peut comment trouver son propre voie? C'est difficile. Et aujourd'hui, en plus, les jeunes ou les plus jeunes compositeurs, hein, sont confrontés avec le vaste répertoire. Hein. Et où commencer? Il faut manger, digester. Et il y a toujours des choses qui restent et qui, après longtemps, qui deviennent quelque chose de très personnel. Mais on ne peut pas sélectionner quelque chose qui a l'aspect personnel. C'est un voyage. Un voyage très, très, très long. Mais on peut certainement dire des choses objectives, comment utiliser les instruments ou comment écrire des harmoniques, des flageolets pour l'harpe, des choses comme ça. Mais à la fin, les combinaisons et ça que forme une personnalité, c'est un processus complètement indépendant dans l'école. On ne peut pas enseigner ça à la Juilliard School. C'est une expérience qui est personnelle pour chaque seul compositeur.
Matthias Pincher, c'est dire aussi que vous-même, pour composer, vous vous êtes sans doute nourri de ces longues musiques, histoire de la musique, de ce répertoire extrêmement vaste, extrêmement riche. Vous êtes venu avec un disque à vous, un disque de Mendelssohn. On va écouter un extrait de la symphonie numéro 4 en La majeur, le mouvement Presto, et vous nous direz en quoi Mendelssohn a pu vous influencer, vous le compositeur. Matthias Pincher. Oh,
j'adore cette musique. Quelle aura, quelle énergie, quelle forme, quelle simplicité et complexité en même temps. Il y a une expression dans la musique de Mendelssohn qui m'a toujours fasciné. La forme, c'est très classique, c'est très pur, simple même. Mais il y a une aura, il y a une noblesse, une élégance qui me fascine. C'est la symphonie italienne, hein? Mais il y a certainement un aspect d'une culture latin dans cette musique. C'est l'esprit, c'est la danse, c'est la légèreté, la vitesse, la virtuosité. Mais très bien fabriqué. Et ça, j'adore. Et c'est peut-être quelque chose qu'a informé ma propre composition. C'est d'être vraiment exigeant, sinon minuscule avec l'acte de la notation pour après permettre une grande liberté pour l'interprétation des musiciens. Dès que j'ai fini une partition, je m'éloigne de la partition pour permettre le soliste ou l'orchestre ou l'interprète de vraiment trouver quelque chose sur lui-même ou elle-même dans ma partition. Et ça, je trouve avec les symphonies de Mendelssohn aussi, ou l'octet hein, de Mendelssohn. J'ai vu le manuscrit à Washington, D.C., dans la library. Et c'est même l'écriture, ça explique l'esprit. C'est comme un manuscrit de Beethoven, ça explique aussi l'aura et le style d'une composition avec Mendelssohn. J'adore cette légèreté, et, le tempo, c'est la vitesse. Hein. C'est intéressant parce que c'est un élément qui manque dans ma propre musique. Moi, j'écris de la musique très plutôt lente, sombre. Mais c'est peut-être pour ça que j'étais toujours fasciné de Mendelssohn.
Là, vous avez, Matthias Pintscher, un langage très musical pour décrire la musique qu'on vient d'entendre de Mendelssohn. Tout à l'heure, vous utilisiez plutôt un langage visuel. Vous parliez d'images sonores, vous parliez de tableaux. Il se trouve que vous êtes assez influencé dans votre création
fortement
par les arts visuels, graphiques, par Cy Twombly, par Anselm Kiefer. Vous avez d'ailleurs rendu hommage à Anselm Kiefer avec deux trompettes et un orchestre, un morceau intitulé « Chute d'étoiles ». Quelle part ? Il y a la poésie aussi. Vous avez consacré à Rimbaud des œuvres musicales. Quelle part ont les autres arts ? Comment, dans votre composition, vous partez d'images, de sons, de mots ? Est-ce que c'est tout ça à la fois qui peut vous influencer, vous inspirer?
J'étais toujours très ouvert au fait que j'ai voulu communiquer les sources d'inspiration qui m'ont influencé. C'était certainement la littérature et la poésie. J'étais fasciné de Rimbaud et j'ai écrit un opéra pour l'Opéra Bastille très longtemps sur Rimbaud. Et il y a 10 ans ou 15 ans, ça a changé un peu. J'ai abandonné la littérature, c'est devenu les arts plasticiens, les arts visuels. Hein. Je suis un collectionneur moi-même et j'ai investi dans le minimalisme. Hein. Les artistes comme Cy Twombly ou Agnes Martin, Robert Ryman, Bryce Martin. Et j'ai trouvé qu'il y a une association, un lien très, très fort entre ce qu'ils font et moi-même. Hein. Il faut permettre de l'espace dans un œuvre art pour avoir la possibilité de se promener dans ce jardin, un jardin sonore ou un tableau, c'est pareil. Hein. On ne peut pas utiliser trop, il faut vraiment sélectionner quoi utiliser pour d'en travailler. Vous savez que Stravinsky disait il faut se mettre en cadre très, très serré pour se libérer et pour trouver un maximum de libération dans un cadre qui est très défini de l'extérieur.
On va se quitter, Matthias Pintscher, en écoutant un court extrait d'une de vos créations, Sonic Eclipse.
Thank you.
Mathias Pincher, merci beaucoup d'être venu au micro de la Grande Table aujourd'hui. Je rappelle donc que vous dirigerez l'ensemble intercontemporain après-demain soir à la Philharmonie de Paris. Un concert que nous ne pourrons pas tous voir et qui sera retransmis sur France Musique le 20 juin à 20h. Un concert qui est dans le cadre du festival de l'IRCA Manifeste qui se tient jusqu'au 2 juillet. Vraiment merci beaucoup d'être venu.
Merci Caroline, merci à tous.